Bonjour, chers amis de Radio Ville-Marie. Bienvenue à votre émission Parole au présent. Merci pour votre fidélité. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous allons regarder la première lecture proposée par la liturgie du dimanche et non pas l'Évangile comme on a l'habitude de le faire. Alors, on va, soyons plus précis, reprendre le fil du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes rendus au chapitre 15.
Et oui, puisque Claude, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission à cause du radiodon. D'ailleurs, je fais mes excuses aux gens à qui j'avais donné rendez-vous la semaine dernière en vous promettant de parler des voyages missionnaires de Paul. On se reprendra peut-être l'année prochaine sur ce sujet, parce que le texte d'aujourd'hui rejoint une autre problématique complètement.
Alors, c'est ça. Donc, le récit d'aujourd'hui, pour le situer, commence à Antioche de Syrie. Bon, en Syrie. Dans cette ville, les Juifs chrétiens ont parlé de Jésus-Christ à des Grecs qui sont devenus chrétiens et qui se sont joints au groupe.
Oui, les gens qui veulent voir ça, vous pouvez lire le chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres, disons à partir des versets 19 là, et suivants.
Et l'Église de Jérusalem s'en est inquiétée. Et c'est oui. Alors qu'elle a envoyé Barnabé pour évaluer la situation.
Et Barnabé est tout content de ce qu'il voit. Luc nous dit que Barnabé reconnaît la grâce de Dieu à l'œuvre dans cette nouvelle initiative qui adjoint des non-juifs à des juifs pour former une communauté chrétienne. Et Barnabé s'en réjouit, Luc ajoute, car c'était un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Donc, Barnabé trouve ça très bien, cette mixité de la communauté chrétienne d'Antioche, juifs et autres nations qui deviennent chrétiens. Mais cette mixité va soulever des problèmes, et c'est justement à propos de ces problèmes qu'a lieu la grande réunion qu'on peut appeler l'Assemblée de Jérusalem, qui est notre texte d'aujourd'hui.
C'est au chapitre 15, des Actes des Apôtres. Certaines gens venues de Judée voulaient endoctriner les frères de l'Église d'Antioche. Il leur disait, « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabé à ces gens. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Finalement, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes estimés. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici la lettre qu'ils leur confièrent. Les apôtres, les anciens et les frères saluent fraternellement les frères d'origine païenne qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui vous ont troublés et ont bouleversé vos esprits. Il nous a paru bon, d'un commun accord, de choisir des hommes que nous enverrions chez vous avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons jugé bon de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et vous abstenir de l'immoralité. En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage! disons-le tout de suite, le lectionnaire, malheureusement, coupe une grande partie de ce chapitre 15, qu'il faut le reconnaître, il est assez long. Mm-hmm. Et on nous donne le point de départ et la conclusion. Donc, autrement dit, tout ce qui est de délibération qui se fait à Jérusalem, nous ne l'avons pas.
Nous ne l'avons pas, incluant malheureusement un bon discours de Pierre. Alors, c'est ça. En fait, pour les gens donc intéressés à le lire au complet, ce qui a été coupé, ce sont les versets 3 à 21 du chapitre 15. Alors, cette réunion aborde une question fondamentale pour la suite du christianisme. Si fondamentale que si la décision avait été différente, vous et moi ne serions pas ici aujourd'hui en train d'en parler. La décision concerne les modalités d'ouverture et d'appartenance à la foi chrétienne. Donc, c'est profondément la question de l'identité chrétienne qui est posée. Comment vit-on lorsqu'on est chrétien?
Bien oui, c'est bon de rappeler que les premiers chrétiens sont tous des Juifs,
oui,
comme Jésus et ses disciples.
Mm-hmm.
Et après la résurrection, ces Juifs croient en Jésus comme étant le Messie promis dans les Saintes Écritures par le Dieu d'Israël. Donc ils ne changent pas de religion.
Pas du tout. C'est le Messie promis par Dieu lui-même à Israël, comme
voilà,
vous dites.
Et ce Jésus-Christ, donc, accomplit en plénitude le mariage ou l'alliance qu'il vive avec Dieu.
Oui.
Donc, on est dans la continuité.
Oui, on oublie trop souvent que les Juifs devenus chrétiens, dans leur esprit, ne changent pas de religion. Nous, on a l'impression que c'est une conversion. Mais ils sont tout à fait dans la continuité avec leur héritage, avec les Écritures, avec l'Alliance. On voit qu'ils continuent à aller au Temple, d'ailleurs. C'est même la finale de l'Évangile de la semaine prochaine. On voit qu'ils continuent de respecter la loi de Moïse, qui est la loi donnée par Dieu pour dire comment vivre sa volonté. Les Écritures restent incontournables et Jésus, je le rappelle, n'a disqualifié rien de tout ça. Il n'a pas dit le temple c'est fini, il a dit un jour le temple sera détruit. Il n'a pas dit la loi c'est plus bon, il a dit il n'y a pas un « i » de la loi qui va tomber, vous voyez. Et donc, pour les chrétiens juifs,
ils n'ont pas à rompre avec leur héritage, la richesse
plus,
de leur héritage.
Oui, et ça veut même dire que pour eux, les gens non-juifs qui deviennent chrétiens, ça veut dire que ces non-juifs, alors ils peuvent être grecs, romains ou tout ce qu'on voudra, ces non-juifs devenus chrétiens reconnaissent eux aussi en Jésus le Messie promis, et donc ils se joignent au peuple de Dieu, c'est-à-dire au judaïsme. C'est la manière dont les tout premiers chrétiens voient les choses.
En somme, oui, comme ces non-juifs-là, comme tous les juifs, reconnaissent le Dieu unique est le Dieu de tous les humains.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. On en parlait justement il y a deux semaines, et c'est pourquoi dans les villes grecques, les juifs vont accueillir des non-juifs dans la synagogue. Mais ce sont toujours des non-juifs convertis au judaïsme. Hein? Ils peuvent être convertis totalement, on en a parlé, ce sont des prosélytes. Ils peuvent être convertis partiellement, c'est-à-dire pour la foi, ça va, mais pour la pratique de la loi de Moïse, ils ont des réserves et ils ne sont pas circoncis. Et pour les Juifs des villes grecques, ça va, on peut fréquenter ces non-Juifs-là. Donc, si on reporte ça vers les Juifs devenus chrétiens, c'est la même chose. Des non-Juifs deviennent chrétiens, mais pour eux, ils deviennent donc Juifs chrétiens. Vous voyez? Alors, il y a cette ouverture dans les villes grecques, mais c'est comme moins facile pour les Juifs de Judée, je dirais, et probablement aussi pour les Juifs de Galilée. Quand des Juifs vivent en monde grec depuis plusieurs générations, ils sont habitués aux autres nations. Mais c'est pas le cas en Judée, et c'est pas beaucoup le cas non plus en Galilée. Et les premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens, sont de ce monde-là, hein, la Judée, la Galilée.
Et bon, et puis c'est bon de rappeler aussi que Jésus n'a pas vraiment fréquenté les païens.
Ben non, Jésus qui est un bon Galiléen. Ah, hein.
Il accueille favorablement peut-être deux ou trois qui viennent à lui. Là,
oui,
hein,
oui.
On pense à la Cananéenne.
Oui,
puis,
le centurion.
Le centurion. Mais pas beaucoup plus. Hein?
Non, il les cherche pas. Il les appelle pas. Nulle part on dit qu'il mange avec eux, comme on dit souvent qu'il mange avec les pécheurs, mais jamais avec des non-juifs. Vous remarquerez aussi que les guérisons à distance, justement la Cananéenne et le serviteur du centurion, sont des guérisons pour des païens. Donc, vous voyez, et puis il n'en a pas choisi comme disciple. Les gens, les premiers chrétiens, peuvent pas dire, mais oui, la question des non-juifs, elle est réglée, Jésus les a fréquentés. Pas du tout. C'est pas évident. Et c'est pourquoi Pierre, qui est un bon Galiléen et un bon chrétien, a eu besoin d'une vision répétée 3 fois pour aller chez le centurion Corneille, hein? C'est le très beau chapitre 10 du livre des Actes que j'invite avec fermeté nos auditeurs et nos auditrices à lire. C'est vraiment un très beau chapitre. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les Grecs, les non-Juifs, donc, qui reconnaissent en Jésus le Messie d'Israël? Est-ce que ces gens-là vont devoir se convertir au judaïsme puisqu'ils se convertissent au Messie d'Israël? C'est ça le problème.
Avec tout ce que ça implique. Avec,
donc, la circoncision et la loi de Moïse.
C'est ça.
Alors, il y a 2 aspects du récit, maintenant qu'on a fait un peu la mise en place du problème. Il y a 2 aspects du récit qui m'intéressent. D'abord, le processus de décision, la manière dont on procède pour décider. Et ensuite, la sorte de règle qui est proposée par Jacques, ceci étant dans le récit qui a été retenu par le lectionnaire.
Bon, alors regardons d'abord le processus de décision.
Oui, que l'on peut percevoir si on lit le chapitre 15 en entier, hein, parce que la plus grande partie de ce que je vais vous dire n'est pas dans le texte de ce dimanche.
Non, je pense qu'on n'insistera pas assez. Bon. Hein, il faut lire le chapitre
15
au complet.
Oui, ça se lit bien de toute façon. Ouais. Alors, d'abord, un aspect dans le processus de décision, un aspect que moi je juge très important, le récit souligne constamment la dimension communautaire du processus. Hein, d'abord, on dit bien, c'est l'Église d'Antioche qui paye les frais du voyage de Paul et Barnabé. On dit que pendant le voyage, partout ils vont trouver des communautés chrétiennes. Paul et Barnabé racontent la conversion des païens et Luc précise, tous les frères s'en réjouissent. Les frères, dans le contexte ici, ça désigne toujours les chrétiens. Donc, c'est comme si on arrive à Jérusalem avec un sondage d'opinion. Hein? Les chrétiens, en tout cas, avec qui on en a parlé un peu partout, sont d'accord avec l'entrée des païens, c'est-à-dire des non-juifs, dans l'Église. Autre aspect où on souligne le communautaire, à Jérusalem, Paul et Barnabé sont accueillis par les autorités et toute l'Église locale. Et la finale va encore souligner l'unanimité de la décision. Donc, ça me paraît important, cet aspect communautaire. Ça se fait pas en serre chaude, dans un petit bureau auquel personne n'a accès, sauf les autorités.
Mm-hmm. C'est très collectif, quoi.
Oui,
il y a beaucoup de monde impliqué.
C'est le sens de la communauté
le côté,
chrétienne.
Je pense qu'il est très important, ce côté. Il est la base, finalement, ce côté communautaire. Et aussi, bien, il y a la dimension théologique du débat.
Oui, tout à fait. Le processus de décision se fonde sur une réflexion théologique. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est le discours de Pierre, où il raconte son expérience chez Corneille, celle dont je parlais tout à l'heure, et il raconte comment il a été surpris de voir que l'Esprit-Saint était donné à Corneille et à toute sa maisonnée, et il va conclure, donc vous voyez, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que dans notre foi, nous savons que nous avons été sauvés. Si c'est par la grâce du Seigneur Jésus qu'on est sauvés, c'est exactement comme les païens. C'est aussi par la grâce du Seigneur Jésus qu'ils vont être sauvés.
Donc, rappelons, Corneille est un centurion romain, ne fait pas partie du peuple.
C'est ça. Alors, ce qui m'intéresse dans cette déclaration de Pierre, qui est une déclaration de type théologique, c'est-à-dire comment sommes-nous sauvés ou qu'est-ce que Dieu propose comme salut, ce qui m'intéresse, c'est que, après tout, on était censé débattre sur des règles à suivre. Hein, le problème, c'était la loi de Moïse, est-ce qu'on la fait respecter aux païens ou pas? Et on se rend compte que même si le problème, c'était ça, le débat, grâce à Pierre, n'est pas un débat sur les règles, mais vraiment un débat sur la théologie fondamentale et sur l'expérience aussi, son expérience chez Corneille et l'expérience de la conversion des païens. Et c'est cela, la théologie et l'expérience, qui doit définir les règles, hein, et non pas une réflexion à partir des règles elles-mêmes, c'est quand même pas rien. La loi de Moïse, ça a de la valeur, ça s'appuie sur une longue tradition, on pourrait trouver des manières de les adapter. Non, on ne réfléchit pas sur les règles qui sont le problème, mais sur les questions de fond qui touchent finalement l'identité de la foi chrétienne.
En somme, la base de la décision, c'est la foi au Christ qui sauve.
Voilà.
Et non l'observance de règles.
C'est ça. Même si ces règles-là ont été données par Dieu, puisqu'il s'agit de la Torah ou de la loi de Moïse. Et après le discours de Pierre, il y a au moins un point qui est clair, les gens des nations qui deviennent chrétiens n'ont pas à se convertir au judaïsme pour être chrétiens, ils n'ont pas à suivre la loi de Moïse. Et ça, Claude, c'est une nouveauté radicale. Ça se faisait déjà, mais vous savez, comme ces expériences qui s'essayent un peu partout dans l'Église, mais qui sont pas officielles. Ici, il y a une décision d'une nouveauté radicale et qui va être officielle, et ça nous place en rupture avec la tradition, plutôt qu'en continuité. Au début, vous disiez avec raison, pour les premiers chrétiens, on est en continuité avec la tradition et l'héritage. Et voilà qu'ici, la décision nous place plutôt en rupture avec cette tradition. Ça, c'était donc pour le processus de décision. Et là, Jacques, qui est à cette époque-là le chef de l'Église de Jérusalem, parce que Pierre voyage déjà, Jacques intervient, se lève, intervient, et il dit « Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec le discours de Pierre. » Donc, en principe, avec ce que Pierre a dit, on n'impose rien aux non-juifs parce qu'ils n'ont pas à se convertir au judaïsme. Jacques va faire des liens avec les Écritures. Donc, on voit que lui, il peut percevoir une continuité et il y tient, ce qui est très bien. Mais il propose des règles. Alors, on vient de dire, non, les lois de Moïse s'appliquent pas pour les païens. Mais Jacques dit, oui, mais peut-être que quand même, il y a quelques règles.
Mais, regardez, je vous interromps, mais je pense que la position de Jacques, elle est très, très importante parce que Jacques n'est pas celui qui parcourt les régions. Hein.
Non, il est au centre, il est le chef de l'Église mère. Hein.
C'est ça. Et c'est lui qui prend la parole avec autorité.
Alors, il y a du poids, le monsieur.
Il y a du poids, voilà.
C'est ça. Et donc, il va proposer des règles. Je remarque en passant que sur tout le chapitre 15, c'est justement le passage que le lectionnaire a choisi. C'est assez étrange, mais bon. Quelles règles va-t-il choisir? Donc, c'était le deuxième point dont je disais, il est important de les commenter.
Puis on est surpris qu'il parle pas du sabbat.
Ben oui.
La dîme au temple.
Si je vous demandais...
L'attention aux pauvres, etc.
Si on demandait aux auditeurs, c'est quoi les règles les plus importantes de la loi de Moïse, on n'aurait pas choisi pas manger de viande étouffée, pas manger, bon, vous voyez. Donc, on se dit, comment ça se fait qu'il procède pas en disant « je vais un peu élaguer la loi de Moïse pour la rendre plus acceptable ». Pas du tout. Il propose des règles qui concernent particulièrement la nourriture. Et cette sorte de règle nous dit quel est le problème que Jacques cherche à résoudre. Au fond, les règles qu'il propose ne valent que pour les communautés chrétiennes mixtes, et quand je dis mixte, je veux dire donc composées de juifs chrétiens et de non-juifs chrétiens, mais particulièrement des communautés chrétiennes qui incluent des juifs plus conservateurs, et donc vraisemblablement des juifs chrétiens qui viennent de Judée et de Galilée. Vous voyez, et quel est leur problème à ces communautés? C'est que lorsqu'elles prennent leur repas en commun, il y a un malaise chez certains juifs chrétiens plus conservateurs. On doit se rappeler, Claude, que le repas dans le monde juif est toujours un acte à valeur religieuse, même si ça n'est pas un repas religieux. Alors, c'est encore plus le cas quand, dans la communauté chrétienne, on termine le repas par le mémorial de la scène, c'est-à-dire l'Eucharistie. Il y a des chrétiens juifs qui, plus soucieux de la pureté rituelle, de la sainteté qui est balisée par les règles de la Torah, de la loi de Moïse. Et là, ils doivent manger avec des gens qui s'intéressent pas du tout à la pureté rituelle, qui connaissent rien aux règles de la sainteté qui sont données dans la loi de Moïse. Alors, c'est difficile pour ces gens-là. Ils se sentent impurs en étant en train de faire le mémorial de la scène. Vous voyez, je veux pas les défendre, mais je veux juste signaler que Pierre, ça lui a pris trois visions. Et Pierre avait connu Jésus, là. Hein? Ça lui a pris trois visions pour se décider à aller chez Corneille. Et imaginez-vous de quoi étaient faites ces visions de nourriture interdite par la Torah. Et il y avait une voix du ciel qui lui disait « Mange, Pierre. » »« Non, non, Seigneur, je mange pas ça. » Vous voyez? Et quand Pierre va revenir de chez Corneille à Jérusalem, il va se faire reprocher par les chrétiens de Jérusalem d'avoir mangé avec des non-juifs. Donc, on voit que c'est un problème sensible. Nous, on peut bien se dire « Ben oui, mais on les a plus, nous autres, ces problèmes-là. Pourquoi on en parle? » Parce que, je dirais, et beaucoup de commentateurs le disent, parce que là, on comprend mieux les règles qui sont données. Ce sont des règles qui permettent la communion entre les frères d'une communauté chrétienne. Ce sont des règles qui favorisent la relation dans des milieux où cette relation-là est plus difficile parce qu'il y a des gens mal à l'aise avec d'autres gens. Et donc, on va demander aux Grecs chrétiens, non pas de respecter la loi de Moïse, mais de respecter les sensibilités de leurs compagnons juifs chrétiens qui sont mal à l'aise. Alors, on va demander aux Grecs de s'abstenir des nourritures qui les rendent impures lorsqu'ils vont manger avec les frères de la communauté chrétienne. Bon, ils vont pas manger avec ces gens-là tous les jours de la semaine. Mm-hmm. Alors, voyez, la règle, elle est très circonstancielle. C'est le principe de base qui est intéressant pour nous. Hein? C'est pas la valeur de la règle elle-même. La règle, elle ne vaut plus pour vous et moi aujourd'hui. Mais le principe de base de cette règle, c'est la qualité des relations dans la communauté chrétienne et le respect des autres dans la communauté chrétienne. Et si ma manière d'être chrétien rend les choses difficiles à l'autre, si c'est parce qu'il est conservateur, je vais faire attention. Mais si ma manière d'être chrétien rend impossible à l'autre parce qu'il est non-juif d'être dans la communauté, ben je dois mettre de l'eau dans mon vin et accepter de manger avec des non-juifs qui ne sont pas circoncis. Vous voyez, la règle, donc, c'est la relation et le respect des gens. Et d'ailleurs, on le voit que c'est circonstanciel, puisque Paul ne va jamais dire aux chrétiens des villes grecques qu'ils doivent appliquer ces règles-là. Il va aborder la question lorsque, par exemple, les chrétiens de Corinthe ont des problèmes avec cette règle-là, et il va dire... Mais oui, on peut manger tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, c'est l'amour de l'autre qui a la priorité. Et si la relation avec l'autre, elle est menacée parce que je mange, j'aime mieux ne pas en manger plutôt que de mettre en danger ma relation à l'autre. Et pour les gens que ça intéresse, c'est la première lettre aux Corinthiens, les chapitres 8 à 10.
Donc, c'est ça. Ce qui est premier, ce qui est fondamental, en somme, c'est la communion. Hein. C'est permettre aux juifs et aux non-juifs de se retrouver à la même table et de pouvoir manger ensemble. C'est toute la dimension communion. Et puis, j'aime beaucoup le mot circonstanciel. Par exemple, là, si mettons qu'on invite un ancien musulman devenu chrétien. Oui. Prenons cet exemple-là. Là. Et puis, bon, on fera pas exprès quand même. On lui servira pas une grosse tranche de jambon dans les premiers repas où
parce qu'on respecte ses sensibilités.
Un respect des sensibilités.
Et c'est pas des caprices, on le voit avec Pierre. Hein, je le rappelle qu'il a eu lui-même beaucoup de difficultés avec cette question-là. On pourrait dire, pour conclure, Claude, que cette assemblée de Jérusalem, je le rappelle, est d'une importance cruciale, puisque elle va permettre l'ouverture de la communauté chrétienne à tous, à tout le monde. Vous voyez, et c'est pourquoi certains commentateurs vont l'appeler parfois cette assemblée le premier concile. Qu'est-ce que c'est un concile? En tout cas, ceux que de notre vivant, disons, c'est la mise à jour de l'Église quand le monde change. Hein? Alors, il y avait des choses vraiment en train de changer dans les communautés chrétiennes et il fallait se mettre à jour. Personnellement, de ce texte, je retiendrai trois critères qui me paraissent toujours pertinents à travers les siècles, qui ressortent de ce récit et qui peuvent nous éclairer aujourd'hui. Le premier, le processus de décision, il est communautaire et il est éclairé par l'expérience vécue. Premier critère pour réfléchir sur les problèmes de l'Église aujourd'hui. Le deuxième critère, c'est ce dont on a parlé vers la fin, la priorité qui est donnée au respect des gens, la priorité aux relations qui permettent à tout le monde de se sentir accueilli dans la communauté, c'est-à-dire aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. Et le troisième critère qui me paraît intéressant, dont j'ai parlé, c'est la priorité de la théologie sur la règle. La question n'est pas et n'a pas été « Que valent nos règles ?» On sait que la loi de Moïse a une grande valeur. La question n'a pas été ça, mais la question a été « Quel est le visage du Dieu auquel on croit ?» Et comment proposer des modalités de vie chrétienne qui reflètent le visage du Dieu auquel on croit ? C'est donc théologique.
Vous venez d'entendre Francine Robert qui commentait le chapitre 15 du livre des Actes, dont une partie sera proclamée dans les églises catholiques en cette fin de semaine. C'est Claude Julien qui vous parle, à la technique Alain Primeau. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine à notre antenne et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure.